de Radio Classique avec David Abiker.
Et surtout avec Christophe Barbier et Lucie Robke. Bonjour à tous les deux.
Bonjour David.
Mes excuses Lucie, je vous ai appelé Julie.
Aucun problème.
Qui vous va bien aussi selon Merci. Christophe Barbier.
Mais Julie, c'est bien, mais Lucie, c'est la lumière.
Bon, on va partir à Séville avec ce sommet européen de l'espace. Les Européens divisés sur le projet spatial. Alors les Échos ce matin titrent qu'on a sauvé le projet Ariane. Est-ce que les efforts spatiaux européens restent unanimes?
Oui, c'est le verre à moitié plein, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à régler. La situation européenne est assez préoccupante. Hein. On n'a plus de lanceurs pour envoyer nos satellites dans l'espace. Le dernier a été lancé en juillet. Il faudra attendre 2024, certainement le deuxième trimestre, pour pouvoir à nouveau lancer des satellites.
Et pourquoi on n'a plus de lanceurs?
Eh bien, parce qu'Ariane 5, c'est terminé, et il va falloir attendre Ariane 6 pour réenclencher la machine. Donc, pour l'instant, nous nous sommes mis dans les mains des Américains, de SpaceX notamment, des Indiens, des Chinois. C'est vraiment l'un des domaines où la souveraineté européenne a le plus reculé. Donc, hier, oui, accord des Européens sur le spatial. On a pérennisé le financement d'Ariane 6, ça c'est très bien. Mais on a quand même beaucoup de mal à changer de logiciel. On a beaucoup de mal à faire le jeu de la concurrence. Il y a cette règle totalement aberrante du retour géographique qui veut que chaque pays européen obtiennent des commandes spatiales industrielles à hauteur du chèque qu'ils versent à l'Agence spatiale européenne. Donc si les Pays-Bas versent 10%, enfin contribuent à 10% du budget de l'ASE, ils ont 10% des commandes industrielles. Ça favorise pas les meilleurs, ça favorise pas les plus innovants. Et ça, les Européens l'ont un petit peu modifié hier pour les mini-lanceurs. Il y aura une concurrence accrue, mais pas pour les gros lanceurs. On a beaucoup de mal à changer de logiciel.
Je me souviens, il y a 7 ou 8 ans, j'avais interrogé des responsables de l'aérospatial français qui regardait les Américains, et notamment Elon Musk et SpaceX, avec une certaine forme de condescendance, Christophe. Mais c'est on a péché par arrogance en
Bien
Europe.
Sûr, on a péché par arrogance, puis par cette certitude que tout ne pouvait venir que du public, de l'argent public, des États. Et l'Amérique a montré, après les déboires de la navette, qu'une partie du salut pouvait venir du privé. En effet, de ces milliardaires, il y avait aussi Richard Branson qui était dans la course, qui apparaissait comme de doux rêveurs ou de francs zozos qui voulaient faire du tourisme spatial, mais qui ont réussi à cranter des progrès technologiques et une exploitation commerciale de ces progrès. Donc il faut que l'Europe se mette à réfléchir aussi à cette association réelle avec le privé dans son dynamisme et dans son inventivité. Alors le privé à 100% tout seul, non, bien sûr. Les États, l'Europe, bien entendu. Mais le privé aussi doit être associé.
Je complète ce que dit Christophe Barbier. SpaceX, c'est privé, mais c'est financé en très très grande partie par la NASA.
Donc la commande publique,
laisse faire. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc la concurrence, elle a eu lieu au début. On a sélectionné la NASA, a sélectionné SpaceX, et c'est très bien. Mais maintenant, ce sont des fonds publics. C'est certainement le meilleur modèle, c'est-à-dire la puissance de la finance publique avec la mise en concurrence des acteurs privés. Voilà. Et ça, l'Europe ne sait pas encore faire.
Ce qui est étonnant, c'est que dans cette période compliquée où le monde se divise, la coopération spatiale avec la Russie continue.
Soyouz, c'est terminé. Hein. On peut plus.
L'ISS, c'est bientôt fini.
Oui,
la station spatiale internationale.
C'est la fin d'une histoire. La Russie essaie de revenir dans cette course spatiale. On a vraiment beaucoup de nouveaux acteurs qui vont faire entendre leur voix, notamment l'Inde. Hein. C'est assez sidérant. Ils produisent des lanceurs très peu chers. Ils les font très vite. Donc voilà, la course spatiale est en train d'être totalement revisitée. C'est assez passionnant.
Avec deux horizons devant nous quand même, qui est la conquête sur Mars. Ça va faire rêver beaucoup les populations. Et puis un autre horizon dont on parle pas assez, c'est le militaire. Les guerres prochaines se passeront aussi dans l'espace et là où est l'Europe.
Après l'espace tout court, l'espace public et la manifestation prévue par Olivier Faure, annoncée par Olivier Faure, manifestation contre l'antisémitisme. Bon, jusque-là, rien d'original, mais le patron du PS estimait que le Rassemblement National pouvait y participer, ce qui est quand même dans l'histoire du Parti Socialiste et de ses mobilisations une très grande nouveauté, parce que ça fait quand même 40 ans que le Parti Socialiste et la gauche culpabilisent tous ceux qui s'approchent de près ou de loin du Rassemblement National en leur faisant des procès en sorcellerie. Là, on marche sur la tête et on croit rêver.
Ah oui, on croit rêver. Double bourde, en fait, de la part d'Olivier Faure. D'abord de dire, oui, pourquoi pas le RN dans cette manifestation, avant de rétro-pédaler en disant, mais non, le RN garde fidélité à ses racines antisémites, nous ne pouvons pas les accepter dans la manif. Ça, c'est la première bourde. L'autre bourde, c'est de penser qu'après avoir manifesté aux côtés de LFI dans une manifestation pro-palestinienne, ils pouvaient se rattraper en organisant une manifestation manifestations anti-antisémites. En gros, bah allez, un quart d'heure avec le Hamas, un quart d'heure
c'est
avec les Juifs.
C'est le en même temps socialiste.
Et en même temps socialiste qui est en fait un nini. C'est-à-dire, il n'est ni LFI parce qu'il fait semblant d'exister à côté, ni socialiste républicain à l'ancienne. Et donc, il y a une espèce de trou noir dans lequel est en train de tomber le parti à la rose.
Lucie.
Ça montre effectivement que la normalisation du Rassemblement National est en marche. C'est la grande réussite de Marine Le Pen, je pense. Elle arrive à faire oublier le passé de son parti et elle arrive à cacher ses proximités actuelles avec certains réseaux antisémites, le GUD notamment, avec Viktor Orban qui continue à prôner la pureté de la race hongroise. Et là, on voit que l'électorat juif est finalement assez perméable au Rassemblement National. Ils sont 13% à être prêts à voter pour le Rassemblement National. Ce serait quelque chose qui était totalement inimaginable à l'époque de Jean-Marie Le Pen.
Dans le désespoir de la communauté juive qui se dit face à l'islamisme antisémite, plus personne ne nous protège. C'est vrai que Zemmour, dans un premier temps, et Le Pen maintenant, marquent des points. Vers qui doit-on se tourner pour être protégé? C'est ça aussi qui crée cet engouement électoral.
Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé ce week-end, puisqu'on parle de manifestations, mais là, c'était des manifestations pro-palestiniennes à Paris. C'est que le décompte des manifestants était effectué par la préfecture, mais ça, c'est normal, mais aussi par la CGT. Alors, la préfecture a annoncé 19 000 manifestants, et la CGT 60 000, et ce qui m'a frappé, c'est qu'un syndicat, qui en principe défend les intérêts des salariés, se sentent obligés non seulement de manifester, mais en plus de faire le décompte pour l'opposer à celui de la préfecture. Ça m'a surpris.
Mais c'est ça l'islamo-gauchisme et la puissance de l'islamo-gauchisme.
Ça c'est du syndicalo-gauchisme.
Oui, c'est du syndicalo-gauchisme et du syndicalo-islamo-gauchisme. Que vise la CGT? C'est un syndicat de gauche radicale qui vise à affaiblir, à détruire le capitalisme, en tout cas à créer un véritable rapport de force quasi-révolutionnaire. Et dans ce combat-là, il se trouve que tiens, pourquoi pas? Pourquoi ne pas être solidaire de causes qui semblent très très lointaines, la cause palestinienne, et prendre à notre compte ce combat jusqu'à comptabiliser les manifestants, parce qu'en fait, on a le même ennemi. C'est qui cet ennemi? C'est le capitalisme. Alors derrière le capitalisme, les islamistes vont dire il y a la finance juive, et derrière la CGT va dire non, nous on n'est pas antisémites, mais derrière le capitalisme il y a quand même des puissances financières. L'islamo-gauchisme, c'est ça, c'est cette convergence des luttes extrêmement malsaines. Pourquoi le NPA se retrouve même dans une procédure judiciaire, le nouveau parti anticapitaliste, pour avoir dit finalement bravo le Hamas et Israël a tort? C'est pour la même raison, c'est cet islamo-gauchisme qui est devenu un ferment de notre vie politique. La France insoumise, la CGT en sont des exemples.
La politisation d'un syndicat de travailleurs dans ce contexte précis, Lucie, ça vous surprend, vous?
La politisation de... Les syndicats ont déjà pris certaines positions politiques.
Ou pacifistes. La CGT a été pacifiste, évidemment.
Et la CFDT avait pris des positions contre le RN assez franches. Aujourd'hui, les lignes de fracture sont plus compliquées. Les syndicats ont du mal notamment à s'opposer frontalement au Rassemblement National, parce qu'une partie de leurs troupes appartiennent au Rassemblement National. Mais l'idée que les syndicats puissent prendre certaines positions politiques, notamment contre les extrêmes, n'est pas totalement nouvelle.
Après, l'espace public, l'espace virtuel, l'espace de débat, je mets de grosses guillemets, ce sont les réseaux sociaux. On a appris il y a quelques jours que Twitter, le réseau social devenu X, mobilisait en France et employait en France 50 personnes, 52 pour être précis, pour modérer le cloaque de ce réseau social et des noms d'oiseaux qu'on peut s'y envoyer. 52 personnes pour modérer X, ex-Twitter, ça laisse songeur.
C'est pas beaucoup, parce qu'il faut modérer ses contenus 24 heures sur 24. Moi, je pense qu'il faut changer de méthode, qu'on ne peut pas se contenter de demander aux réseaux sociaux de modérer leurs contenus. Je pense qu'il faut les rendre pénalement responsables des contenus qu'ils diffusent. Ce sont des responsabilités qu'ont les médias traditionnels, les réseaux sociaux s'y refusent. Ils estiment qu'ils ne sont que les facteurs, c'est-à-dire qu'ils portent des messages d'une personne à l'autre. Ils ne sont pas des éditeurs de presse, selon eux. Je pense que c'est faux, parce qu'ils hiérarchisent l'information. C'est l'activité même d'un
algorithme,
d'un titre de presse. Donc je pense qu'il faut les rendre pénalement responsables. Je pense qu'il y a aussi un levier qui serait absolument fondamental, ce serait de lever l'anonymat. Alors non pas dans la sphère publique, il faut que les lanceurs d'alerte gardent leur anonymat sur les réseaux sociaux, mais il faudrait que les hébergeurs et les autorités judiciaires puissent lever l'anonymat. Ce serait la seule manière de lutter efficacement contre les contenus illicites.
Je suis parfaitement d'accord avec ces deux propositions de Lucie, responsabilité pénale du diffuseur, du média, qui est un réseau social, et puis la levée de l'anonymat. J'ajoute une chose, c'est qu'on apprend qu'Elon Musk lance sa propre intelligence artificielle, son ChatGPT à lui, qui se veut sarcastique, donc ça va donner encore plus d'ampleur au déferlement de haine qu'il y a sur X, parce qu'on pourra solliciter une intelligence artificielle pour participer à la création de ces contenus. C'est vertigineux et ça fait très peur. C'est gentil de la part de l'Union européenne de dire, il faut réguler, on va discuter avec les opérateurs de réseaux sociaux pour voir comment ils peuvent réguler, modérer, et on se retrouve retrouve avec ce genre d'arnaque, c'est-à-dire 52 pauvres modérateurs, c'est-à-dire personne. Il faut qu'à un moment donné, l'Union européenne, les démocraties, tape un peu plus du poing sur la table. Il y a des dictatures qui savent très bien interdire des réseaux sociaux. Pourquoi les démocraties sont-elles tolérantes jusqu'à jouer contre leur propre camp ?
Un dernier mot sur cette prière collective à Roissy. C'était dimanche à Aérogare 2B. Des voyageurs en attente d'un vol vers la Jordanie se sont mis à prier. Ils étaient une petite vingtaine. Le président d'Aéroport de Paris a dit sa consternation d'autant qu'il y a des salles de prière dans l'aéroport. Augustin de Romanet a également indiqué qu'il ne fallait pas monter l'épisode en exergue car qu'il s'agit de voyageurs. Et puis ils ont prié 10 minutes. L'épisode montre tout de même que nous avons en ce moment la laïcité à fleur de peau. Est-ce qu'on va maintenant se mettre à fliquer à tous les gens qui prient, y compris dehors, y compris dans l'espace collectif? Ça va être compliqué, là.
Les prières dans l'espace collectif sont interdites, sont pas possibles. En revanche, il faut faire en sorte qu'il y ait des espaces à disposition. C'est le cas dans les aéroports. Alors, en effet, Augustin de Romanet a raison. Des pèlerins en voyage qui se trouvent dans un Roissy dont ils ne savent pas trop quelles sont les règles, on peut considérer que c'est un incident. Mais c'est un incident quand même éloquent. Mais il n'y a pas qu'au Roissy. Vous trouvez maintenant de plus en plus de circonstances dans la vie publique où vous voyez des gens, des musulmans en l'occurrence, se mettre à prier. Ça n'est pas possible. Autant il faut faire un effort, et il a été fait, pour que des lieux de prière soient disponibles, parce que très longtemps, on a manqué de mosquées. Il y a eu une pénurie de lieux. Autant aujourd'hui, il ne faut pas être tolérant sur ces prières dans l'espace public.
Le dernier mot à Lucie Robquin.
Non, oui, effectivement, cette idée de ne pas vouloir faire de vagues, elle est délétère. Ce sont des petits renoncements à la laïcité qui tuent notre modèle social. Il faut avoir une tolérance zéro à l'égard des entorses à la laïcité.
Pas d'accommodement raisonnable.
Tout à fait.
Mes chers esprits libres, Christophe et Lucie, je vous dis à la semaine prochaine. Et dans un instant, c'est la météo, le flash et Franck Ferrand qui raconte. Merci à tous les deux.